La route du large, podcast by Tendance Ouest.
La Transat Jacques Vabre s'élance depuis Le Havre dimanche 7 novembre. 79 bateaux voguent vers la Martinique, destination d'arrivée inédite de cette 15e route du café.
Bonjour, je suis Francis Le Goff, je suis le directeur de course de la Transat Jacques Vabre.
Et pour entamer cette série, c'est le patron qui nous embarque. Francis Le Goff nous parle de la course, bien sûr, et aussi un peu de lui, quelques souvenirs de l'océan.
Première fois pour vous à la direction de la course de la Transat. Pas première fois, en tout cas, en expérience de directeur de course. Vous en avez déjà derrière vous. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours maintenant de ce départ ?
Je suis très serein parce que, effectivement, en tant que directeur de course, c'est la première fois, mais cette Transat, je l'ai connue pas pour la première édition, mais dès la deuxième. Donc je suis plutôt serein parce que c'est au Havre et que, voilà, le Havre, c'est ma ville et que j'estime bien la connaître, du moins du point de vue. Du nautisme, et puis mes expériences passées sur la solitaire, sur d'autres transats, et la Transat Jacques Vabre aux côtés d'autres directeurs de course. J'ai pris pas mal d'expérience, et puis je côtoie aussi maintenant les marins, notamment sur la solitaire du Figaro, qui montent au fur et à mesure aussi les échelons de la course au large, on monte en même temps, donc je suis assez serein, même s'il y a plein de nouveautés sur la Transat, elle va être vraiment différente des années précédentes. Et puis, pour clôturer ce chapitre-là, j'ai aussi une équipe formidable qui m'accompagne sur toutes les autres courses. Donc, il y a un lien très, très fort et une confiance qui est établie, si bien qu'avec tous ces éléments réunis, voilà, on est prêt à affronter le prochain départ avec une flotte incroyable.
Vous parlez des nouveautés, il y en a une particulièrement, c'est ces parcours, ces multi-parcours. Comment c'est venu cette idée de dire finalement on va changer les parcours selon les classes de bateaux pour qu'on essaye d'avoir une arrivée un peu commune?
Alors on va essayer de faire simple. D'abord, la Transat Jacques Vabre, c'est la transatlantique la plus exigeante parce que c'est la plus longue. Et elle avait cette spécificité d'avoir une route nord-sud. Puisqu'on allait vers le Brésil. On a voulu absolument conserver cet ADN et le fait de pouvoir aussi affronter le poteau noir, l'équateur, alors que la Martinique, c'est quand même beaucoup plus au nord. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre des îles intermédiaires en fonction de la taille et de la vitesse des bateaux. Et il y avait un deuxième objectif, pour moi, il est hyper important, moins aussi important que celui-là, c'est que l'effort consenti par les marins soit exactement le même d'une classe à l'autre. C'est pas parce qu'on a un ultime qu'on arrive avant. Et voilà, l'effort pour la Transat Jacques Vabre, pour gagner la Transat Jacques Vabre, doit être le même. Alors pour ça, il fallait des distances différentes. Le Cap Vert pour les classes 40, Fernando pour les Ocean 50 et les Imoca, et Trinidad, donc là on est à la latitude de Rio pour les ultimes. Et si tout ça bien mélangé et que le vent ne nous fait pas de mauvaises surprises, on devrait avoir des arrivées groupées en Martinique.
En quelques mots, ça consiste en quoi votre job sur la course? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de travail en amont aussi.
Il y a plein de rôles. Le premier, c'est de s'assurer qu'il y a une belle ville de départ, une belle ville d'arrivée, que les parcours sont cohérents. Donc il s'agit de faire des analyses météo, de routage, pour trouver les meilleurs parcours possibles. S'assurer aussi que ces parcours ne rencontrent pas trop de difficultés, notamment le passage en Manche ici, de s'assurer que les dispositifs de séparation de trafic seront bien respectés par les marins, les bois qui flottent au large du Brésil, enfin voilà, les sargasses. L'autre travail, c'est de vérifier qu'ils soient tous en capacité de partir. Donc pour ça, il faut d'abord qu'ils valident une qualification de 1000 milles, à peu près 1800 kilomètres. Donc ça, c'est une obligation de le faire avec son bateau et avec l'équipage. C'est le trio là, le skipper, le co-skipper, le bateau. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi, avec toute l'équipe de la Fédération Française de Voile, s'assurer que tout le matériel qui est à bord, notamment les balises de détresse, les balises du bateau, mais les balises individuelles, que le radeau de survie, les combinaisons de survie, et je vous en passe et des meilleurs, soit tout en conformité. Donc ça, c'est un autre gros travail qui se réalise au Havre sur les pontons. Et puis ensuite, voilà, c'est le moment du départ. Et là, il y a une autre problématique qui arrive, c'est que il y a de l'engouement pour la course au large et faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage sur l'eau autour d'un bateau en course. On génère une centaine de personnes supplémentaires à minima. Ça, c'est sans compter les plaisanciers. S'il fait beau, et c'est bien normal, ils sortiront pour voir le spectacle. On va approcher, sans trop de difficultés, les 350 à 400 bateaux sur l'eau, avec cet aléa de plaisanciers et de la météo qui peuvent largement augmenter le nombre. Là, on parle vraiment de ce qui se passe vraiment assez proche des marins en course sur l'eau. Et puis, une fois qu'ils sont partis, là, l'équipe, elle rentre dans son PC organisation, elle a ses petits écrans, et elle va suivre, parce que chacun a une balise de positionnement, cette fois-ci, pas de détresse, de positionnement, qui nous donne des relevés réguliers des bateaux. Alors, on en a plus que le grand public, mais en tous les cas, là, à la direction de course, nous, on peut agir directement sur les balises et avoir des positions toutes les minutes, toutes les deux minutes, si on a besoin, en cas de difficultés. Et puis quand tout va bien, on élargit aussi le champ, mais généralement c'est jamais beaucoup plus d'une demi-heure pour avoir une lecture parfaite de ce qui se passe en mer. Et puis ensuite c'est l'arrivée, c'est la délivrance pour tout le monde, et là c'est tout nouveau aussi, c'est en Martinique. C'est nouveau pour les autorités là-bas, c'est nouveau pour les clubs et l'association qui nous accueille là-bas. Mais voilà, tout est prêt, ce sera extraordinaire à Fort-de-France et ce sera sûrement l'une des lignes les plus proches de la côte qu'aura connue l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, et ça c'est bien pour les Martiniquais.
Podcast by Tendance Ouest.
Aux équipages à vrai qui partent pour cette Transat Jacques Vabre, on leur demande un premier souvenir de mer, pas forcément de voile. S'il y a des choses qui vous reviennent, c'est quoi? Quelles images?
Sans parler de course, parce que moi j'habitais en Bretagne, j'ai toujours ma maison là-bas, et c'est plutôt de partir en mer avec mon père quand il avait son petit bateau en bois qui faisait touc-touc-touc-touc-touc-touc comme ça. Hein, on se demandait si le moteur il allait pas caler, parce que c'est des trucs qui tournent très très bas. Il était marin, donc il était pas à la maison. Et quand il revenait, qu'il y avait ce bateau qui allait à l'eau, c'est surtout ça. C'est vraiment la première image qui revient.
Il y avait un nom, ce bateau?
Ouais, il s'appelait Plijadur. Ça veut dire plaisir en breton.
S'il n'y en avait qu'un à retenir en mer, une image, un moment joyeux, fort, c'est compliqué de faire le tri parfois.
Ouais, c'est, je sais pas, des moments, parce que j'ai aussi beaucoup entraîné, et j'ai fait une pige un dernier moment, que j'étais déjà directeur ici, qu'on a des entraîneurs, et on avait une équipe féminine dont ma fille faisait partie. Et donc je les ai coachés sur leur dernier championnat de France, et les deux pensionnaires du centre d'entraînement font 1 et 2 au championnat de France, et Anna gagne. C'était bien.
Ah, il y a de l'émotion.
Ouais, c'était bien.
Une galère en mer, il y en a eu?
Oula, alors ça, ouais, il y en a eu beaucoup. La plus dure, ça a été sûrement ma première course de directeur de course. J'ai cru que tout s'enchaînait pour que j'abandonne tout de suite. C'était juin 2017. Départ de Bordeaux. Puis on remonte forcément au moteur et on donne un départ à Pauillac. Il n'y a pas de vent. Et il faut faire le pari de savoir si on donne le départ quand même, parce qu'après, il y a la marée qui se renverse. On finit par donner le départ avec beaucoup de retard. On arrive à sortir de là. Et on savait qu'il y a une grosse cartouche qui arrivait. J'avais déjà réduit un peu le parcours pour ne pas aller sur la pointe de Bretagne où c'était compliqué. Et là, on a pris sur le plateau de Rochebonne, il y a un moteur de... Moi, je suis en bateau à moteur. Il y a un moteur qui a lâché. Donc, il n'y avait plus qu'un seul moteur. 40 figaristes dans 45 nœuds, rafale à plus de 50, 3 mètres à 4 mètres de creux. On ne sait plus trop où ils sont, tout le monde se démerde. Les voiles lâchent, certains abandonnent, filent vers La Rochelle, d'autres vers d'autres ports, d'autres sont en fuite. Ça, c'était une vraie bonne galère, et ça puait le gasoil dans le bateau de tous les côtés. On avait des invités, tout le monde malade là-dedans. Et bon, il était temps que celle-là se termine. Bon, ben voilà, elle n'a pas eu raison de moi parce que j'ai continué. Mais les enchaîner comme ça, n'a pas eu beaucoup d'autres.
Est-ce que le directeur de course, quand il est sur l'eau, il a un petit gris-gris ?
Non, il n'y a pas de gris-gris, pas du tout. Alors, pas du tout. Il embarque le télégramme, voilà. Parce que forcément, il y a des moments longs, hein, parfois, de veille, et il fait les mots croisés et les mots fléchés. Mais non, j'ai pas de doudou, pas de trucs comme ça.
Suivez les derniers préparatifs de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, la route du large, le podcast. Podcast by Tendance Ouest.